Bonsoir et bon début de semaine à tous. Situation sécuritaire au Nord Kivu. Dans une déclaration faite le week-end dernier à Kinshasa, les confessions religieuses disent non à toute forme de négociation avec les éternels criminels, ainsi qu'à toute tentative de balkanisation de la RDC. Comment analyser cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 16 juillet 2012. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Abbé Donatien Cholet, premier secrétaire général adjoint de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Abbé Cholet, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Hubert Effolé, secrétaire général du Rassemblement Congolais pour la démocratie RCD, parti de l'opposition. Maître Effolé, bonsoir.
Bonsoir.
Et Joseph Banga, qui est président du parti politique Alliance des démocrates humanistes ADH et membre du bureau politique de la majorité présidentielle. Monsieur Banga, bonsoir.
Bonsoir, Kili.
Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Freddy de Bukavu, Sud Kivu. Les évêques ont raison car les négociations ont montré leurs limites. À ce stade, il faut utiliser d'autres moyens et une fois pour toutes. Patrick Owengo, quand les chefs religieux refusent la voie des négociations, c'est qu'ils préconisent la voie de la guerre, chose qui n'est pas bénéfique pour la population congolaise. Merci de nous suivre dans le Massissi au Nord Kivu sur la 96.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radioocapi.net.
Les chefs des confessions religieuses de la République démocratique du Congo ont initié une pétition jeudi dernier à Kinshasa pour dire non à toute forme de négociation avec les éternels criminels ainsi qu'à toute tentative de balkanisation de la RDC. Cette pétition s'adresse au secrétaire général des Nations Unies, au Conseil de sécurité et aux membres permanents du Conseil de sécurité, puis sa substance du rapport du panel des experts des Nations Unies qui incrimine à tout égard le Rwanda dans la situation qui prévaut dans la partie est de la RDC. Les grandes lignes de cette déclaration avec vous, Alain Rung.
Dans ce document, les chefs des confessions religieuses exigent la répression des crimes commis par le Rwanda en RDC et l'arrestation de tous les criminels recherchés par la justice internationale. Ce document se réfère au rapport du panel des experts des Nations Unies qui cite le Rwanda comme pays qui soutient les rebelles du M23, le rendant de ce fait, selon les chefs religieux, responsable de la situation qui prévaut à l'est de la RDC. Abbé Donatien Cholet, premier secrétaire général adjoint de la Conférence épiscopale national du Congo, qui a lu cette déclaration des chefs des confessions religieuses.
Nous nous opposons à toute forme de négociation avec les éternels criminels ainsi qu'à toute tentative de balkanisation du territoire national de la République démocratique du Congo.
Enfin, dans leur déclaration, les chefs des confessions religieuses exigent que le gouvernement arrête une fois pour toutes l'invasion de la RDC, le pillage de ses richesses et le viol de la femme congolaise. Ces chefs religieux réclament aussi l'application sans délai de toutes les décisions des Nations Unies en faveur de la paix en RDC.
Merci Alain Rungabe. Donatien Cholet, je rappelle que vous êtes premier secrétaire général adjoint de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Pourquoi les chefs des confessions religieuses sont contre le dialogue?
J'aimerais que vous compreniez que cette pétition fait suite au communiqué de la Conférence épiscopale du Congo qui a été moralement adhéré par toutes les confessions religieuses qui l'ont clairement exprimé. Et le communiqué signifiait bien que ce que nous sommes en train de vivre à l'Est est une illustration du plan de balkanisation. Et les évêques étaient très clairs, l'intégrité du territoire de la RD Congo n'est pas à négocier. C'est dans cette logique-là que toutes les confessions religieuses se sont prononcées contre tout dialogue dans l'esprit de négocier la balkanisation du Congo. Si les gens viennent en négociation, en dialogue pour négocier une partie du Congo, toutes les confessions religieuses, comme les évêques aussi, disent non. Mais si, par bonheur, il y a une dynamique, disons, du Rwanda, parce que nous avons cité le Rwanda par rapport au rapport du panel des Nations Unies, s'il y a une dynamique qui vient dialoguer dans un autre esprit que l'esprit de ce que nous considérons comme un crime, l'esprit de la balkanisation, personne ne refusera de parler avec eux.
Et lorsque vous parlez des éternels criminels, de qui s'agit-il? Il s'agit du Rwanda?
Ben, c'est-à-dire, depuis un certain temps, le Congo est victime des attaques. Ils sont des gens bien connus, évidemment. On n'a pas cité les noms, mais tous ceux qui se sont engagés à attaquer le Congo depuis quelques années sont des criminels, parce que il s'agit là de milliers et de milliers de personnes qui meurent, de familles éprouvées, des orphelins, de veuves, et tout cela, ce sont des crimes. Il faut appeler les chats par son nom.
Et si aujourd'hui le M23, ce mouvement qui a commencé la rébellion au Nord Kivu, demandait le dialogue avec le gouvernement congolais pour mettre fin à cette guerre, quelle serait la position de l'Église ou des chefs de confession religieuse?
Bon, je ne voudrais pas aller au-delà de ce qui a été dit, parce que dans ces choses-là, il y a aussi peut-être la partie caché, c'est-à-dire quand un gouvernement s'engage, quand une autorité s'engage, il y a des choses qui ne sont pas connues de public. Là, c'est toutes les institutions savent que c'est lui qui gère les informations que tout le monde n'a pas. En lisant, par exemple, un rapport, une déclaration du Conseil de l'Union européenne, il parlait de s'attaquer aux sources régionales et locales de la guerre. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Mais en ce qui concerne l'Église catholique, par exemple, par son président, Monseigneur Nicolas Diomo, il y a une lutte qui est engagée contre l'exploitation de minerais appelés minerais de sang, parce qu'il y a aussi un problème économique. Si c'est autour de cela qu'il faudrait dialoguer, ça c'est autre chose. Mais s'il faut dialoguer pour négocier la balkanisation, la personne l'acceptera.
Alors il y a cet auditeur Abbé Cholé qui nous écrit de l'ICASI, il s'appelle Mac. Il dit ceci: pourquoi l'Église refuse le dialogue alors que la mission de l'Église c'est d'éclairer les zones d'ombre? Selon moi, je pense qu'avec le dialogue, nous saurons quelles sont les revendications de ces mutins, et c'est par le dialogue qu'on peut arriver à un consensus. Pourquoi l'Église parle de la balkanisation du Congo? Est-elle au courant d'une certaine manigance en rapport avec cette balkanisation?
Bon, là, il y a déjà une confusion. Il parle de l'Église. Quelle Église? Il y a le message de l'évêque dont il n'est pas question maintenant, et on dit l'intégrité du territoire du Congo n'est pas négociable. Donc, on ne peut pas dialoguer avec comme finalité de négocier, de balkaniser le Congo. Et je l'ai expliqué, quand toutes les confessions religieuses parlent de dialogue, de refuse le dialogue avec les criminels, c'est-à-dire ceux qui viennent dans la logique de sanctionner leur plan par un dialogue. Mais en dehors de cela, les églises, je n'en connais aucune qui serait contre le dialogue.
Non, mais il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Ouais. Est-ce que les chefs des confessions religieuses sont au courant d'une certaine manigance en rapport avec la balkanisation du Congo?
Non, on est en train Non, je crois que ça, au courant d'une information certaine, je ne dirais pas.
On va prendre pour vous une autre réaction, Abbé Cholé, qui nous vient de Kalima au Maniema.
Augustin Mwango, depuis Kalima dans la province du Maniema. Je pense que les confessions religieuses ont raison de dire non à la balkanisation, mais pas au dialogue, car celui-ci est l'unique voie de sortie des crises et des paix durables, surtout dans ces cas d'espèce où la population en a assez avec les conflits armés interminables et qui ne produisent rien de positif. Pour une fois, les confessions religieuses viennent de se tromper pour des raisons peut-être liées à l'émotion, créer une insécurité grandissante à l'est de notre pays. Il convient toutefois de reconnaître que le dialogue en question devra être franc et surtout rassembler les véritables acteurs dans ces conflits.
Abbé Cholé, réaction.
Bon, je crois que je me suis suffisamment exprimé là-dessus. Le dialogue comme principe n'est refusé par personne. Mais le dialogue dans la logique de balkaniser le Congo, je l'ai dit, s'il y a d'autres raisons, s'il y a une dynamique qui voudrait dialoguer sur des choses pour lesquelles qu'on peut négocier, oui. Mais sur la question de l'intégrité du Congo, c'est là où on n'accepte pas les négociations, c'est là où on n'accepte pas de dialogue. Ne venez pas dialoguer avec moi donc pour que nous trouvons d'autres alternatives pour que Vous vous prenez une partie du pays, c'est ça qu'on refuse.
Merci Abbé Chollet, Maître Hubert Effolé. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Rassemblement Congolais pour la Démocratie. RCD, c'est un parti de l'opposition. Comment vous analysez la déclaration des chefs des confessions religieuses du Congo?
Je crois que je serai probablement dans la lignée de l'intervenant de Kalima. Je crois que, pour parler un peu comme l'avocat des confessions religieuses, les messages ont probablement été mal compris. À suivre ce que Monsieur l'abbé Chollet dit, l'Église ne s'oppose pas aux négociations. L'Église s'oppose aux négociations ayant objet la balkanisation de la République démocratique du Congo, si j'ai bien compris. J'ai dit que j'étais dans la lignée de l'intervenant de Kalima, et cela rejoindrait peut-être une question que vous avez posée à M. Labbé, s'il y a des informations allant dans le sens de la balkanisation de la République démocratique du Congo, on serait heureux de partager ces informations-là. Aujourd'hui, moi, j'ai de plus en plus l'impression que pour occulter des réels problèmes qu'il y a dans cette partie de notre République, la menace de la balkanisation est toujours présentée comme ça, on se focalise sur une éventuelle balkanisation et on oublie les problèmes réels qui sévissent dans cette partie de la République. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la question de l'Est, à l'heure actuelle, ce n'est pas une question de balkanisation. C'est une question où il y a énormément de forces paramilitaires dans cette partie de la République, y compris de groupes appelés Mai Mai, les rébellions M23, CNDP avant, les FDLR. Ça, ce n'est que pour les Kivu. Et lorsque vous montez à la province orientale, vous avez les rebelles ougandais, vous avez les Mbororo. Et c'est une partie très instable où je pense que l'administration n'est pas correctement assurée. Il n'y a pas une administration correcte. Il y a des pans entiers de notre République qui sont gérés par des FDLR. Et cette situation mouvante avec des armes qui circulent, avec des mouvements incontrôlés qui circulent, produit, sont des germes pour qu'il y ait des conflits armés pratiquement à chaque revendication. On devrait donc aujourd'hui penser, et si on est logique avec soi-même, identifier ces causes profondes qui fait qu'à cet endroit-là, il y ait autant de groupes militaires. La question de nos richesses, moi je m'inscris toujours en faux qu'on me dise que ces groupes paramilitaires sont là pour exploiter nos richesses. Je ne pense pas que les Dékivu soient plus riches que les Katanga, qu'ils soient plus riches que les Bakongo ou plus que l'Équateur. Et on ne me dirait pas, moi aujourd'hui, et je ne pense pas que nos frères qui sont au Katanga seraient opposés à l'idée que les Katanga aussi aient pillé dans ces ressources. Les Bakongo aussi, dernièrement, lors du dépôt du budget, on a entendu les Sénats dire qu'on ne voit pas où passent les recettes pétrolières. Donc pour piller la République démocratique du Congo, on n'a pas nécessairement besoin de créer des guerres. Il y a des provinces beaucoup plus riches aujourd'hui qui ne souffrent pas de ces maux-là, de ces tares-là, comme le Nord et le Sud Kivu. Donc on ne doit pas continuer à brandir la balkanisation, l'exploitation des richesses comme étant des causes essentielles de ces guerres-là. Il y a des causes essentielles.
Lesquelles,
qu'il faut. J'ai parlé de la multiplicité tolérée des forces armées dans cet endroit-là. On devrait, par exemple, pour éliminer les conflits, le problème rwandais, nous débarrasser de la question des FDLR. J'attends souvent à mes amis qui sont au pouvoir dire que oui, mais il faut que le Rwanda accepte d'avoir un dialogue inter-rwandais pour que les FDLR... Mais est-ce que c'est notre problème? Si les FDLR étaient des forces tranquilles, disons, c'est-à-dire qu'il ne nuisait pas à la population. Mais dans notre pays, il ne se passe pas une semaine sans qu'on vous dise que les FDLR ont saccagé tel village. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on vous dise que les FDLR ont violé, ont tué à tel endroit. Pourquoi nous continuerons à supporter cette présence-là en espérant qu'un jour le Rwanda puisse accepter de faire un dialogue inter-rwandais? Est-ce que c'est notre population qui doit payer les lenteurs de la réconciliation rwandaise? Ah non, si ces forces rwandaises ne sont pas désarmés, s'ils ne continuent pas à à justifier plus ou moins l'appui rwandais chaque fois qu'il y a un mouvement rebelle dans notre pays. Ça a été le cas avec l'AFDL, ça a été le cas avec les RCD dont je suis le secrétaire général, ça a été le cas avec les CNDP, aujourd'hui probablement avec le M23. Donc on doit nécessairement commencer par extirper ces problèmes-là. Ça pourrait nous permettre de voir nécessairement si derrière ces motifs apparents, ces motifs évidents, le Rwanda a d'autres intérêts. Donc on doit d'abord éliminer ces problèmes-là. Les problèmes internationaux entre nous, le Rwanda étant éliminé, on se consacrerait aux forces locales, c'est-à-dire les Maïmaï, les rébellions qui naissent par là.
Merci Maître Hubert Ifolé, Joseph Bangakia, président du parti politique Alliance des démocrates humanistes ADH et membre du bureau politique de la majorité présidentielle. Quelle est votre analyse, vous, de la déclaration des évêques ou des chefs des confessions religieuses de la République démocratique du Congo?
Premièrement, je voudrais saluer, à juste titre, la déclaration courageuse, spontanée et patriotique des chefs des confessions religieuses. C'est ce que nous attendions lorsque nous appelions à la mobilisation générale. Je remercie les hommes de Dieu d'avoir élevé la voix très fortement pour préserver l'intégrité du territoire national qui est mise en cause par les événements récents de l'Est. Et étant donné qu'on a levé l'équivoque qui semblait s'installer, les hommes de Dieu sont les premiers hommes de dialogue. La seule question sur laquelle ils ne veulent pas négocier, et ils ont raison, et sur laquelle nous ne négocierons jamais, c'est la balkanisation de la République démocratique du Congo, qui n'est pas une simple vue de l'esprit, cher maître Hubert Ifolé. Il y a des puissances qui s'organisent, qui réfléchissent, qui travaillent pour effectivement dépecer la République démocratique du Congo. Ne tombons pas dans le piège. C'est un secret de polichinelle, madame Kilinkouté. Nous savons qu'il y a des tentatives, qu'il y en a eu plusieurs, et que des forces obscures sont mobilisées à cet effet. Donc, ne tombons pas dans la facilité. Ne soyons bien sûr pas naïfs. C'est la même chose pour la question de l'exploitation des ressources naturelles. Ne soyons pas naïfs. Pourquoi est-ce que la frontière rwando-ougandaise, on peut aller jusque-là, est-elle aussi problématique? Pourquoi seulement là-bas? Donc, et pourquoi lorsque ces pays qui nous brandissent tantôt les FDLR, tantôt les NALO ADF, comment se fait-il que lorsqu'ils avaient le contrôle de cette partie du territoire, pendant très longtemps, pourquoi n'ont-ils pas pu éradiquer ce problème? Bien entendu, parce que, il faut dire la vérité, le Rwanda se complaît à cette situation. Et moi, je remercie le gouvernement congolais pour avoir été aussi ferme, aussi clair. Et cette ligne de conduite ne doit pas dévier. Il faut être ferme et clair sur ce qui se passe. Bien sûr qu'on va continuer à dialoguer avec le Rwanda parce que le Rwanda restera toujours à côté de la RDC. Mais
vous allez continuer à parler avec le Rwanda sur quelles questions?
Toutes les questions sont à discuter parce que c'est un pays frontalier. C'est un pays frère en vérité. En vérité, c'est le régime rwandais qui monte le Rwanda contre le Congo et vice-versa. Parce que je vous l'assure, du côté du pouvoir congolais, la seule volonté que nous avons, c'est la paix. Nous voulons que la paix règne sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour que nous mettions en œuvre le projet sur lequel le chef de l'État a été élu. C'est ça notre préoccupation à nous. Malheureusement, le régime de Kigali ne s'engage pas dans cette démarche. C'est pour ça que je dis, ne soyons pas naïfs sur cette question.
Mais le régime des Kigali ne reconnaît pas ou ne se reconnaît pas être un acteur qui déstabilise la partie est de la RDC.
Non, mais
pourquoi le Congo irait négocier avec le régime de Kigali?
Premièrement, il y a eu plusieurs organisations, structures et personnalités dignes de confiance qui ont appelé le Rwanda à cesser tout appui à ces mutins, à ces rebelles et aux gens qu'ils fabriquent pour semer les troubles que nous connaissons, des troubles récurrents dans la partie est de la RDC. Le Rwanda, nous avons remis au Rwandais, au régime Rwanda, des éléments de preuve, d'action menée par des personnalités éminentes du régime rwandais contre les intérêts congolais. Ils n'ont pas su démentir ces preuves jusqu'à présent.
Ils ont rejeté.
Non, ils l'ont fait d'une manière politique et diplomatique, mais le fait nouveau est que tous les pays, même ceux qui étaient soupçonnés d'un excès de maternalisme envers le Rwanda, tous les pays ont trouvé que trop c'était trop et ont demandé au régime de Kigali de cesser tout soutien aux groupes armés en RDC et de s'engager réellement dans un dialogue franc et sincère. Nous attendons cela d'eux. Nous sommes prêts pour parler sincèrement et avec franchise.
Voilà, vous le savez, la semaine dernière, une délégation de la communauté Tutsi de la RDC, composée notamment de l'ancien vice-président de la République, Azarias Rubéroy, et du sénateur Moïse Nyarugabo, a rencontré jeudi dernier le ministre de l'Intérieur pour se plaindre et dire leurs craintes quant aux propos xénophobes tenus sur la télévision publique à l'endroit des Tutsi. À la sortie de cette audience, l'ancien vice-président, porte-parole de cette délégation, se réjouit d'avoir obtenu de Richard Muyej des garanties de sécurité pour sa communauté. Il a aussi affirmé souhaiter l'établissement d'un dialogue franc pour résoudre les questions non résolues. On écoute Azarias Rubéroy.
Le ministre de l'Intérieur nous a rassuré qu'il va communiquer à travers les gouverneurs de toutes les provinces pour éviter justement que des gens soient tués. C'est extrêmement injuste et dangereux de viser une communauté comme si elle était moins citoyenne que les autres. Donc le message de la communauté, c'est un message de paix. Nous souhaitons peut-être que plus que quiconque, que la guerre s'arrête et s'arrête immédiatement. Nous ne souhaitons même pas qu'il y ait des victoires militaires, parce que qui dit victoire militaire dit mort d'homme, dit réfugié déplacé. Si un dialogue franc peut s'installer et que des questions non résolues soient résolues, voilà notre message du fond de notre cœur.
Monsieur l'abbé Chollet, brève réaction sur les propos de l'ancien vice-président Azarias Rubéroy qui appelle à un dialogue franc.
Oui, il a tout à fait raison. S'il y a eu de signes de xénophobie, personne ne peut soutenir ça. Le chef de confession religieuse, les évêques en particulier, s'engage, milite pour l'unité du pays et au même moment, on ne peut pas accepter qu'on indexe une communauté congolaise identifié. Donc là, je lui donne raison.
Alors, on a suivi tout à l'heure Maître Hubert Ifolé qui a dit que les évêques, les chefs des confessions religieuses ont posé un mauvais diagnostic. Le problème, ce n'est pas la balkanisation. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, là, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que, comme dit l'autre, c'est vraiment un secret de polichinelle. Nous avons vu circuler des cartes présentant le déquivaut hors la configuration du Congo actuel. Nous voyageons, on est en contact avec des gens qui vous disent clairement, écoutez, votre pays est trop grand. Pour mettre fin à cela, il faut accepter que on revoie la cartographie. Là, je crois que il se trompe.
Alors, on a suivi, on va revenir sur les propos d'Azarias Rubéroy qui propose, est-ce que par rapport à ce qu'il a dit, ne faudrait-il pas organiser un dialogue intercongolais, donc congolo-congolais, pour résoudre les problèmes non résolus, comme il le dit dans le son?
Bien sûr, un dialogue entre Congolais, on en aura toujours besoin parce que jamais tous les Congolais verront les choses de la même façon. Il y aura toujours plusieurs façons de voir. Et pour que le pays marche, un pays grand comme le Congo, il faut un dialogue permanent entre tous les acteurs sociopolitiques du pays. Ça, c'est tout à fait normal.
Est-ce que finalement, le problème qui se pose à l'Est, là, n'est pas un problème vraiment interne?
Non, évidemment. La pétition des chefs de confession religieuse aux hautes instances des Nations Unies s'est servie du rapport du panel des experts des Nations Unies même. Donc ce sont eux-mêmes qui ont décrit ce que ferait le Rwanda là-dedans. Les évêques, dans leur message, n'ont pas cité le Rwanda. Donc, ici, si le président, les chefs de confession religieuse ont cité nommément le Rwanda, donc ils n'ont repris qu'une citation d'un organe, d'un groupe d'experts des Nations Unies, alors là, ce sont des prémices qui appellent une conclusion cohérente et ferme. Donc, pour revenir à votre question, je crois que par rapport à cela, il ne s'agit pas d'un dialogue. Il y a pas, la solution ne serait pas un dialogue entre Congolais, parce que eux-mêmes dans leur rapport, ils disent clairement, le Rwanda a créé de toutes pièces le mouvement M23. Alors, si c'est, ils ont la certitude que c'est le Rwanda qu'ils ont créé, pourquoi les Congolais doivent ne dialoguer entre eux si l'auteur est ailleurs, en dehors du Congo?
Alors, on va prendre quelques réactions qui vous est destinées, monsieur Lavé-Cholet. C'est Imorani Saproduki, Ndou Maniema. Pourquoi les chefs religieux peuvent-ils se contredire aujourd'hui en disant qu'ils s'opposent à toute négociation, et pourtant ils nous ont toujours dit qu'il faut accepter de faire la paix avec même l'ennemi. Moi, je pense que les négociations politiques valent plus que toute chose. Placide Boulaïm, depuis Matadi au Bas-Congo, comment trouver la paix sans négocier au moment où le rapport des forces sur terrain ne serait pas en faveur de la RDC?
Je suis tenté de dire que ces questions sont sans objet parce que, après moi, les autres intervenants ont fait une bonne synthèse, donc ils ont bien compris. On ne refuse pas le dialogue. Bon, je préfère parler de la réconciliation pour éviter le mot dialogue, parce que la réconciliation ne peut être construit que sur la justice, la vérité, et non sur les mensonges. Et puisqu'on parle des hommes religieux, dans notre référence, c'est la parole de Dieu. Jésus est venu combattre le mal. Il n'est pas venu mettre ensemble le bien et le mal. Donc, une négociation qui serait une compromission, chercher un compromis entre le bien et le mal, ça on dit non. Mais le dialogue, comme principe de collaboration, comme au principe de bon voisinage, personne ne le refuse, je répète.
Merci à Bécholet, Hubert et Follet. Dialogue franc entre qui et qui?
Quand on parle de nécessité de dialogue, c'est justement pour régler les vraies questions qui se posent au niveau de l'Est du pays. Aujourd'hui, il faut savoir pourquoi il y a autant de forces au Maï-Maï, pourquoi chaque conflit là-bas doit se régler en termes d'armes et pas directement par voie de dialogue. Mais pour revenir à la question de la balkanisation, moi je crois que là on est en train de parler d'une situation concrète. Moi on ne va pas suivre les lubies de toutes les personnes, il y a des gens qui font de rêves. Mais aujourd'hui, moi je constate qu'aucun acteur majeur des conflits qui ont pris naissance à l'est du pays, et même ceux d'avant, n'a été partisan d'une balkanisation du Congo. Je pense ici à l'AFDEL. L'AFDEL, quand elle a commencé son mouvement, l'AFDEL n'a jamais souhaité balkaniser le Congo. Le RCD, qui a commencé son mouvement, n'a jamais parlé de la balkanisation du Congo. Aucun dirigeant de ces mouvements n'en a parlé. Le MLC et les autres mouvements rebelles, aujourd'hui encore, lorsque vous entendez parler, et le M23 ou les autres mouvements Maï-Maï, il n'y a aucun de ces mouvements congolais qui ne parle de balkanisation de la République démocratique du Congo. Aucun. Lorsque vous prenez le cercle officiel...
Mais c'est quoi leur revendication? Qu'est-ce qu'ils veulent?
Aujourd'hui, en fait, moi j'aurais aimé qu'on pose la question plutôt à mon cher frère qui est secrétaire exécutif, je ne sais pas moi, à la majorité présidentielle, parce que le M...
Il fait partie du bureau politique de la majorité.
Le M23, c'est après tout un dérivé du CNDP qui est membre de la majorité présidentielle. Et ils disent, ils ne s'en cachent pas, ils disent qu'ils réclament l'application des accords du 23 mars ou je ne sais pas comment, qu'ils ont signé dans leur majorité. Donc c'est un problème. D'abord, il y a un problème interne au sein de la majorité présidentielle. Parce que le M17 est né de la non-satisfaction des desiderata du CNDP tel que concocté lorsqu'ils ont intégré le CNDP dans la majorité présidentielle. Donc, moi, j'aurais aimé, pour revenir à la question d'aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on ne fouille pas la responsabilisation du gouvernant congolais. On ne peut pas imaginer que tout le monde soit responsable de la sécurité du Congo, sauf l'exécutif national. C'est assez désolant de constater que dans le message de confession religieuse, on n'en appelle pas à la responsabilité politique, ni du Premier ministre, même pas du ministre de la Défense, alors que dans les communications du gouvernement, on nous disait que, oui, ces petits mouvements de rebelles, on les a coincés dans un coin de colline, et que dans deux jours, tout sera fini. On se retrouve que le gouvernement mentait, mais personne n'a l'idée de dire que c'est quand même eux qui sont le premier responsable de la sécurisation de nos populations. Donc, on passe d'une irresponsabilisation totale des politiques congolais pour chercher des gens qui seraient comptables de la sécurité du Congo ailleurs. Moi, je trouve ça quand même assez étonnant.
Alors, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani en province orientale.
Bernard Osoko, je suis à Kisangani en province orientale. Je suis d'avis avec les chefs religieux qui s'opposent aux négociations avec les rebelles, d'autant plus que cette énième négociation ne donnera pas de bons résultats. Elle va plutôt continuer à fragiliser notre armée ainsi que notre politique. Souvenez-nous combien de fois ces rebelles ont cherché à négocier avec les gouvernements en place pour des intérêts égoïstes.
Hubert Effolé, le gouvernement va continuer à négocier jusque quand avec tous ces mouvements, ces groupes armés qui naissent dans cette partie du pays, nord ou sud qui vont.
Tout ça, c'est pas seulement de négocier, c'est aussi de faire ce qu'on a dit de faire, ce qui a été accepté pendant les négociations. C'est aussi ça. Lorsqu'on dit qu'on négocie plus d'une fois, mais pourquoi on négocie plus d'une fois? Est-ce que parce qu'on a mal négocié la première fois? Est-ce que parce qu'on n'a pas accompli ce qui a été promis ou décider lors des négociations, c'est ce qu'il faut voir. Aujourd'hui, les gens du M23 disent que les accords du 23, je ne sais plus de quel mois, n'ont jamais été respectés par la partie gouvernement. C'est à la partie gouvernement de nous dire que non, nous avons respecté ça, il n'y a rien qui est resté. Donc, il faut savoir pourquoi on revient chaque fois à ces négociations. Et à mon avis, je reviens à la précision qu'on a fait tout à l'heure. Je crois que l'auditeur ne nous a pas bien compris. Les chefs religieux ne s'opposent pas à toute négociation. Ils s'opposent à la balkanisation de la République démocratique du Congo. À mon avis, dès lors que la négociation semblera ou sera la voie la plus facile pour arrêter des situations dramatiques, on devra toujours passer par là.
Joseph Bangakia, vous qui êtes au pouvoir, c'est vous qui êtes à la base ou responsable de cette insécurité qui se vit au Nord Kivu aujourd'hui.
Mais ce sont des propos qui sont graves et qui sont faux, totalement faux. Qui ne sait pas que les problèmes de sécurité que nous avons à l'est du Congo viennent de la mauvaise volonté du régime rwandais? Actuellement, il y a unanimité au niveau international. Même les plus fidèles soutiens de Paul Kagame le disent et le pressent de cesser c'est son appui à ces différents groupes qu'il crée, qu'il sous-traite pour faire, pour semer le désordre, le malheur dans l'est du pays. Et dire que c'est un problème que le M23, le CNDP, pourquoi pas le RCD Goma et de la majorité présidentielle, s'il faut remonter. Laurent Kunda, Bosco Taganda, Ronigwa, ce sont des anciens du RCD Goma. Toutes les troupes combattantes.
Vous dites bien anciens, ils ne sont plus dans les RCD.
Bon, je ne pointe pas de doigt accusateur comme le fait Maître Hubert Effolé, mais je ne veux pas aussi faire le procès du passé, la responsabilité du RCD Goma dans une partie du problème. À un certain moment, on ne va pas aller jusqu'à là. Ne dites pas que le CNDP et le M23 sont de la majorité présidentielle. Le CNDP a adhéré à la majorité présidentielle, je dois le dire, sans... Il y a eu un grand débat là-dessus. Personnellement, je n'ai jamais été d'accord avec.
Mais ils ont adhéré quand même à la majorité.
Oui, c'était, d'après ce qui était dit, une démarche pour la paix. C'est comme le refus de livrer Bosco Taganda à la CPI. C'était une démarche pour la paix. Ça ne voulait pas dire qu'il ne serait jamais jugé ou livré aux juridictions, d'après ce qui nous a été dit. Et on a vu que le moment où on l'a estimé nécessaire, des poursuites ont été lancées. Donc, c'était un dangereux amalgame. Mais
on ferme la parenthèse, on revient dans le sujet du jour.
Je dois dire clairement la volonté du président de la République, du gouvernement de la République et de la majorité.
Est-ce que le gouvernement a respecté ses accords avec le M23, puisque c'est ça leur revendication?
Bon, avant de répondre à votre question, je réagis sur les propos de Maître Robert. Quand il demande aux gouverneurs, bon, les gouverneurs qui dirigent des espaces où sont concentrés le problème, c'est le gouverneur Julien Paluku, au nord Kivu, et le gouverneur Tshisembo, au sud Kivu. Non mais, Julien Paluku s'investit pour la coexistence harmonieuse entre les communautés. Oui, comme gouverneur, comme premier citoyen, il devait être à la tête de la mobilisation pour défendre l'intégrité territoriale, comme l'a fait, comme l'ont appelé les chefs religieux. Donc, et puis, je dis ce qu'a dit le gouverneur Kimbuta. Bien sûr, nous condamnons, nous ne voulons pas qu'il y ait dérapage, que l'on indexe les Tutsis. Ça, ce n'est pas le problème. Mais la démarche de Maître Robert et de sa délégation ont quand même dépassé, en termes de proportion, ce qui s'est passé à la Fikine avec l'activité du PPRD, qui n'ont pas appelé à massacrer des Tutsis.
Alors vous répondez
à ma question.
Il
faut aussi que cela soit bien dit. Boshab, Chilombo et les autres n'ont pas appelé à massacrer des Tutsis.
Merci, c'est compris. Alors vous répondez à ma question. Est-ce que le gouvernement a respecté les accords du 23 mars qu'il a signé avec le CNDP? Parce que c'est ça la revendication du M23.
Vous savez, ces accords ont été signés au vu et au su de tout le monde. Il n'y a aucune organisation, la MONUSCO, nos partenaires étrangers, le Rwanda ou je ne sais qui a estimé que la partie gouvernement ne faisait pas son devoir. Mais vous savez, Kelinkouté, ne tournons pas autour du pot. Nous parlons à la nation congolaise, il faut dire la vérité. Le régime de Kigali veut que l'insécurité persiste. Tantôt, il fabrique le RCD Goma, tantôt c'est le CNDP, après c'est le M23, après il y aura autre chose. Je vous le dis, après il y aura autre chose.
Oui, mais le gouvernement fait quoi dans ces cas pour mettre fin à cette situation?
Ce qu'il faut, cette question ne sera jamais résolue. D'abord, ce n'est pas une question congolo-congolaise, c'est faux. Et elle ne sera jamais résolue entre la RDC et le Rwanda seul. Et la démarche qu'a prise le président de la République au niveau de l'Union africaine, appuyée par la communauté internationale, à mon avis, va dans le bon sens.
Alors on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Goma, au nord Kivu.
Floribert Kabundi à Goma, dans la province du Nord Kivu. Je pense que l'appel des évêques est bon. Moi, je pense que pour le moment, la solution est militaire. Question de nettoyer les officiers FARDC qui continuent de trahir le pays à Kim, que le chef de l'État prenne le chapeau du commandant supérieur et qu'il motive nos propres soldats en changeant les officiers qui sont au sommet. La victoire est certaine. Il évite aussi des poids, des mesures dans la gestion des soldats, car ce qu'il réclame aujourd'hui sont les privilégiés d'hier.
Réaction, Joseph Bangakia.
Bon, la réforme de l'armée est en cours, elle doit être accélérée. Nos militaires se sont bien comportés sur le terrain, jusqu'à l'intervention des éléments de l'armée rwandaise, il faut le dire ainsi. Et je dois rassurer sur la ferme détermination du président de la République de s'engager pleinement pour que nous trouvions une solution au problème de l'Est. Cela passe par Kigali. Paul Kagame doit s'engager dans une dynamique où le Rwanda et la RDC vivent en bon voisinage. Qu'il arrête ses visées expansionnistes, ses visées de balkanisation, de sous-traitance des problèmes du Rwanda par des groupes armés qui alimentent l'économie rwandaise avec nos richesses naturelles. Cela ne durera pas éternellement. Un jour ou l'autre, la vérité triomphera. Mieux vaut que ce jour soit maintenant et que les Rwandais et les Congolais vivent en paix ensemble. C'est dans l'intérêt de tout le monde.
Abbé Cholet, je vous ai vu secouer la tête pendant que la réaction de l'auditeur passait. Apparemment, vous n'êtes pas d'accord avec sa proposition pour mettre fin à la situation qui s'est vue au nord Kivu.
Non, non, plutôt contre son introduction, si j'ai bien compris, il aurait laissé entendre que les évêques sont pour la guerre, la force. Non, ça... n'ont pas dit. Et puis le document ici, qu'il soit clair, c'est la pétition de représentants de confessions religieuses. Ce n'est pas un document des évêques. Quand les évêques écrivent, tous les évêques analysent les documents. Et là, pour le cas d'espèce, aucun évêque n'a vu le document. Mais moi, je me suis retrouvé avec les autres confessions religieuses. Donc, et même alors, les évêques n'ont pas... Il a mal introduit, non, il a mal compris les évêques.
Alors, par rapport à la situation qui s'est vue au Nord Kivu avec la situation humanitaire qui reste quand même assez critique pour toutes ces populations qui se déplacent, qu'est-ce que vous proposez? Quelle pourrait être la solution pour arriver à trouver un compromis?
Bon, si j'ai bien compris, vous posez un problème humanitaire. Les églises s'engagent, l'église catholique particulièrement par Caritas est toujours au front pour soulager tant soit peu la misère qu'il y a là.
Alors, il y a beaucoup des auditeurs qui nous écrivent. Une autre question pour vous, Abbé Cholet, c'est un auditeur qui nous écrit de Kinshasa, il s'appelle Emmanuel Mboussa. Il dit ceci, vous savez que l'Église est la seule qui peut canaliser les revendications des peuples. Pourquoi ne pas aller voir l'évêque du Rwanda et ensemble aller auprès du pape pour réclamer l'engagement militant des fils des dieux afin de résoudre une fois pour toutes cette violence entre ces deux peuples des dieux?
Oui, c'est une bonne question. Mais au fait, il y a un dialogue entre les églises. Par exemple, pour les églises de l'Afrique centrale, en ce qui concerne l'église catholique, il y a ce qu'on appelle la CEAC, l'Association de conférences épiscopales d'Afrique centrale, qui réunit le Congo, le Rwanda et le Burundi. Et au mois de septembre, il y aura les responsables des commissions justice et paix de toute la région d'Afrique qui vont se réunir ici à Kinshasa. Ce sont là les structures de dialogue où l'on peut échanger et demander aussi l'appui des autres.
Est-ce que ça peut avoir une influence sur la situation sécuritaire du pays?
Bon, dans la mesure où eux peuvent aussi faire quelque chose pour sensibiliser les leurs, pourquoi pas?
Alors, nous sommes presque à la fin de l'émission. Je vais vous demander de conclure. Abbé Cholet, quel serait votre mot de conclusion?
Mon mot de conclusion, c'est que les confessions religieuses ne refusent pas le dialogue comme principe de collaboration. Ils refusent, comme les évêques l'ont dit, de négocier l'intégrité du territoire. Et les églises s'engagent pour l'unité du pays et contre la xénophobie.
Merci à Abbé Cholet, Hubert Effolé, en guise de conclusion.
Oui, en guise de conclusion, je dirais que nous devons regarder les problèmes qui se posent dans notre pays, non pas seulement à l'Est, mais aussi à Kinshasa, à Lubumbashi, à la province orientale, avec une certaine objectivité et à chaque fois chercher les vraies causes de problèmes pour les résoudre. Parce que ce qui se passe aujourd'hui à l'Est, lorsqu'on commence à brandir de fausses pistes, on passe finalement à côté de l'essentiel et les mêmes causes produisant les mêmes effets, on revient chaque fois à ces questions-là. Je m'en vais ici rappeler ici, en ce qui concerne l'intégrité territoriale de notre pays, il y a quelques années encore, nous avons eu le fameux problème de Kayemba. Je me rappelle qu'à l'époque, l'Église avait même élevé la voix, mais aujourd'hui, on ne sait pas toujours où est-ce qu'on en est avec cette situation-là, où des bornes étaient déplacées physiquement. Et on parle toujours du partage de la production pétrolière. Les Congolais n'en savent toujours pas grand-chose.
Merci, Maître Hubert Effolé, Joseph Bangakia. En guise de conclusion.
Je félicite et je remercie les chefs religieux pour leur réaction patriotique. Et je sais que de l'autre côté de la frontière, en territoire rwandais, se trouvent aussi des hommes de Dieu désireux de vivre en harmonie avec les Congolais, tout comme le peuple rwandais et le peuple congolais. Le vrai problème, on ne va pas l'occulter, c'est le régime de Kigali qui a des agendas cachés et qui ferait mieux dans l'intérêt de nos deux pays de s'engager dans des relations de bon voisinage que nous appelons de tous nos voeux. Pour la majorité présidentielle, nous sommes déterminés cette fois-ci à être fermes. Nous le serons jusqu'au bout.
Merci Joseph Bangakia. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Alain Irung, Samuel Kachak sous la supervision de Ben Kabamba. Merci à Dieudonné Nyangasa qui est à la technique au micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Rediffusion demain 4h15 heure de Kinshasa. Bon suivi de programme sur la fréquence de la paix.